Bonjour et bienvenue sur la chaîne podcast Consultez-moi. Je m'appelle Marianne, spécialiste de l'accompagnement des entreprises et des organismes de formation. Vous retrouverez régulièrement des interviews, de la réglementation, des partages, des feedbacks et de la veille. Bien entendu, avec de la convivialité, de l'authenticité, du partage et de la bonne humeur. N'hésitez pas à enregistrer ce podcast, à le sauvegarder, à le partager auprès de votre réseau. Et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Calliope et plus précisément des non-conformités qui ressortent le plus dans les audits de surveillance. Alors là, je vois déjà votre tête. Non, ne faites pas cette tête. Je vais tout faire pour que vous passiez un bon moment et surtout vous partager aussi des conseils, des astuces, des bonnes pratiques et surtout des points de vigilance pour que votre audit de surveillance ou de renouvellement se passe dans les meilleures conditions possibles. Et surtout avec une réussite à 100% si possible, ça serait vraiment chouette. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur. Et même ce podcast peut vous servir si vous souhaitez passer l'audit initial. Ça peut vraiment vous aider aussi à construire et à réfléchir différemment, à prendre en compte comment bien vous préparer aussi à cet audit. Que Calliope fait peur à de nombreux organismes de formation. Essayez vraiment de trouver le sens qui vous pousse à le faire et surtout de qu'est-ce que ça va amener de positif à votre organisme de formation. Cela peut vraiment vous aider à voir les choses différemment, aller beaucoup plus loin sur vos process sans vous rajouter une charge et de vous sentir en cohésion avec ce processus. Ne restez pas dans vos peurs et donnez-vous cette chance aussi de pouvoir développer votre activité. Donc, pour information, l'audit de surveillance, c'est vraiment sur un temps beaucoup plus court que l'audit initial. Donc, un conseil vraiment, préparez-vous au maximum afin d'éviter de chercher. Et du coup, si vous cherchez, ça va semer le doute auprès de votre auditeur. Et comme il n'a pas le temps, vous risquez d'avoir une non-conformité mineure ou majeure en fonction de l'indicateur. Et ça peut être vraiment dommage parce que la plupart du temps, vous avez le document, mais il est un peu rangé ailleurs. Donc, vraiment, si j'ai un conseil à vous donner, préparez au maximum, vérifiez vos dossiers, donnerez en fin de podcast des conseils, des bonnes pratiques. Voilà, vraiment, il y aura beaucoup de partage en fin, donc n'hésitez pas à attendre la fin du podcast, c'est normal si je ne vous donne pas tout de suite. Donc, sachant que pour l'audit de surveillance, à la base, pour info, c'est environ une minute par indicateur, donc c'est vraiment très 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 rapide. Donc c'est important vraiment de bien vous y préparer pour être au mieux pour vous et pour l'auditeur. Au sujet de ce podcast, belle nouvelle, ça peut vous permettre d'améliorer vos process, d'amener une méthodologie et également de justifier de la veille. Donc, par exemple, même pour l'amélioration de vos process, n'hésitez pas à le mettre en avant que vous avez justement écouté ce podcast. Même pour de la veille, je vais avoir aussi plein d'autres sujets de veille sur le projet Calliope, sur les faire vivre son process qualité. Donc, n'hésitez pas vraiment à le mettre comme veille. N'hésitez pas à vous en servir, à le partager si vous avez des personnes autour de vous qui sont en pleine création d'entreprise, d'organismes de formation ou justement d'audit de contrôle, de surveillance, parce que les audits de contrôle et de renouvellement vont arriver très prochainement. Pour l'instant, on était principalement dans les audits de surveillance, donc voilà, n'hésitez pas à le partager, ça peut servir. Durant le podcast, n'hésitez pas, parce que je vais aborder plusieurs points importants, n'hésitez pas à noter vos idées et surtout votre plan d'action tout au long du podcast, pour pouvoir mettre en action après et vous faire gagner du temps, ou même à le réécouter au moment où vous allez lancer ce projet. Comme ça pourra aussi vous inspirer et vous aider sur cette mise en œuvre. Nous allons commencer à passer au point, à bien vérifier avant votre audit initial, audit de surveillance, audit de renouvellement, afin d'éviter les non-conformités, même si, bien entendu, vous devez être conforme sur chacun des autres indicateurs. C'est juste que là, je pars vraiment sur les indicateurs où il y a eu de nombreuses non-conformités et des retours suite à des échanges que j'ai eus avec des auditeurs ou même des personnes qui ont eu un renouvellement. Donc voilà, c'est vraiment être focus sur ces points-là, même si dans tous les cas, vous devrez être focus sur tous et faire vivre, bien entendu, votre label qualité et vos process qualité en tant qu'organisme de formation. Alors, tout d'abord, on va aborder donc l'utilisation du logo Calliope. Alors, au sujet du logo, il y a de nombreuses choses qui se passent à ce niveau-là, et du coup, c'est vraiment quelque chose qui va être vérifié de suite par votre auditeur et qui peut même également le vérifier avant votre audit sur votre site internet. Donc, faites attention à bien mettre tout à jour avant l'audit. Mon premier conseil, ce serait vraiment, de toute façon, même c'est même pas un conseil, c'est une obligation. C'est de bien lire la charte d'usage et charte graphique d'utilisation du logo Calliope. C'est important afin de respecter les règles d'utilisation et être conforme. C'est la première des choses. Normalement, après votre audit initial, vous avez dû le recevoir par mail suite à votre audit, par votre certificateur ou auditeur. Si vous ne l'avez pas lu, vraiment, je vous invite, même je vous oblige à le lire. C'est obligatoire, c'est la première des choses. Donc vraiment de faire attention que vous utilisez correctement le logo. Là, je vais vous donner quelques astuces après, mais vraiment, en plus, ça fait partie de la veille. C'est vraiment quelque chose que vous devez avoir dans vos documents et de l'avoir lu. Donc ça, c'est important. Ensuite, en deuxième point, c'est de vérifier que vous avez bien le dernier logo Calliope. Voilà, parce qu'il y a eu une mise à jour en décembre 2020. Donc sait-on jamais si vous n'avez pas le blond. Logo, le bon, pardon, le bon logo, donc bien vérifier que c'est OK, que vous avez la dernière version. Ensuite, vous aurez donc un point qui n'est pas des moindres, c'est indiquer la catégorie d'action sous votre logo Calliope et vérifier que c'est conforme sur chacun de vos documents, sites, supports. Quand on dit action, c'est vraiment par exemple si vous êtes certifié pour que les bilans de compétences, et ben c'est d'avoir en dessous de votre logo que c'est pour les bilans de compétences. Si toutefois, d'un coup, vous ajoutez des actions de formation mais que vous n'avez pas été certifié, vous ne pourrez pas mettre action de formation. Voilà, donc ça, c'est obligatoire à bien vérifier. Interdit d'utiliser la marque dans une publicité pour une action de formation. Plutôt pour des actions de formation en particulier. Par exemple, une, vous avez un gros catalogue et c'est pour une en particulier. Et vous n'avez pas le droit d'utiliser le logo Calliope pour, par exemple, des documents d'une action de formation type. Par exemple, tout ce qui est devis, facture, programme relatif à un seul programme de formation, les conventions. Ça, c'est interdit. En fait, vous pourrez utiliser votre logo Calliope uniquement si c'est un catalogue de formation avec toutes les formations que votre organisme de formation effectue. Vous pourrez l'utiliser sur une page de votre site internet, mais seulement sur une page un peu générique, avec la présentation de votre organisme ou de toutes vos formations, ou de toutes vos prestations, si par exemple aussi vous faites du bilan de compétences, etc. Il n'y a pas que des formations. Et vous pouvez l'utiliser sur des signatures de mail. Donc, pour refaire un petit récap, vous pouvez utiliser le logo Calliope sur un catalogue, une page générique d'un site internet, une signature de mail. Toutefois, vous ne pourrez pas l'utiliser sur une publicité pour une action de formation. En disant, par exemple, pour vous donner un exemple, ma formation PNL est éligible et certifiée Calliope. Non, ça, c'est pas OK, vous ne pouvez pas mobiliser ça, ce n'est pas conforme. Donc voilà, vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour rappel sur le logo sur les devis, factures, programmes, conventions. En fait, pour mieux comprendre, pour un petit mémo de conclusion de cette partie logo qui est assez importante, ce ne sont pas nos actions de formation ou prestations qui sont certifiées, mais bien le processus de notre organisme de formation qui est certifié label qualité Calliope. Si toutefois, là, suite au partage que je vous fais, vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, ne vous inquiétez pas, hein, voilà, n'arrêtez pas de respirer, continuez à respirer, restez avec moi parce que je pense qu'il y a plein d'autres choses qui pourront vous intéresser ensuite. Il y a des solutions. Moi, je vous conseille du coup, déjà, c'est de prendre en compte pour votre amélioration continue et de mettre à jour votre tableau de suivi avec toutes les informations. En toute transparence, l'auditeur préférera aussi le savoir, bon, sauf si vous arrivez à tout modifier sans qu'il le voie. Mais si, par exemple, il y a déjà eu des choses qui ont été éditées comme ça, moi, je vous conseille de vraiment rester transparent, d'être honnête, authentique et de le mettre dans votre tableau d'amélioration continue en fonction des process que vous avez effectués, hein, si c'est un tableau, etc. Je ne sais pas trop comment vous fonctionnez. Et de préciser les informations, voilà, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre, ça concerne quoi, c'est quand que vous avez eu l'info, c'est quand que vous le mettez à jour, c'est qui s'en occupe, pourquoi, comment et quelles sont les mesures d'impact dans l'organisme de formation. Voilà, qu'est-ce que vous allez devoir remettre à jour, qu'est-ce qui a été impacté suite à cette nouvelle. Voilà, donc c'est vraiment de tout mettre à jour et de l'avoir en suivi sur votre tableau d'amélioration continue. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Et ensuite, eh ben, c'est de mettre à jour vos documents concernés. Ça veut dire que les documents qui ont déjà été édités et envoyés à des clients, par exemple, ça peut être compliqué de les refaire. C'est toutefois des fois possible, si les formations n'ont pas encore commencé, de pouvoir refaire signer en disant erratum. Mais vraiment de remettre à jour tous vos documents, le site, vos communications avec nouvelle version, toujours versionner vos documents et la date du jour. Comme ça, vous pourrez aussi garder vos anciens en montrant ce que vous avez mis à jour et pourquoi vous l'avez mis à jour. Et n'hésitez pas à vous servir de ce podcast pour dire, voilà, je ne m'étais pas rendu compte, grâce à ce podcast, j'ai lu la charte d'utilisation, je ne m'en étais pas rendu compte que c'était aussi important et je ne l'avais pas forcément des fois comprise ou autre, et vous expliquer pourquoi, mais vous pouvez vous en servir. Voilà. N'inquiétez pas, il y a toujours des solutions. Voilà pour le premier point important qui n'est pas des moindres. J'espère que ça ne fait pas trop pour vous, mais j'essaye d'être le plus complète possible et le plus clair possible pour vous. Nous allons passer sur une deuxième partie qui n'est pas des moindres également. De toute façon, toutes les parties que je vais aborder, c'est vraiment très important pour votre audit initial de surveillance et de renouvellement Calliope. Donc là, on va partir, on s'en va tout au bout du référentiel, le critère 7. Donc là, ce sera pour les indicateurs 30 à 32. Alors, pour rappel, le critère 7, c'est le recueil et la prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux prestations délivrées. Donc là, ce qui sera vérifié, c'est de démontrer à l'auditeur que vous envoyez systématiquement, et je répète bien le systématiquement, les questionnaires d'appréciation. Donc les questionnaires d'appréciation, c'est les questionnaires à chaud et à froid que vous envoyez aux parties prenantes. Alors les parties prenantes, pour rappel, ce sont les stagiaires ou bénéficiaires, ça dépend comment vous les appelez, les entreprises, les financeurs et les intervenants. Donc ça, c'est vraiment important et obligatoire d'envoyer systématiquement ces questionnaires et d'effectuer des relances si vous n'avez pas reçu les retours. Ensuite, sur ce critère 7, en deuxième point, vous aurez à démontrer que vous analysez les retours des questionnaires dans le but de votre amélioration continue, de vos process, formation, prestations et de votre organisme de formation. Et également de prendre en compte, si c'est indiqué dans ces questionnaires, des réclamations et aléas du quotidien qui peuvent être remontés. C'est très important de vraiment prouver que vous lisez ces questionnaires et que vous prenez en compte ce qui est noté et indiqué dedans. C'est déjà une mine d'informations pour vous, vraiment. Vous aurez des informations pour améliorer vos formations, prestations. Vous aurez des idées aussi, si des fois des partages d'une nouvelle formation, pourquoi pas. C'est vraiment une mine d'informations à vous servir. Donc vraiment de prouver que vous en servez. Je vous donnerai quelques conseils juste après, justement, pour tout ça, mais c'est vraiment de vraiment prouver et d'avoir un justificatif que vous prenez en compte ça. Par exemple, de mettre à jour votre tableau de suivi d'amélioration continue, le tableau des réclamations, le tableau des aléas, pourquoi pas un compte rendu, pourquoi pas un rendez-vous dans votre agenda indiquant qu'à ce moment-là, vous vérifiez les retours des sondages. Voilà, de vraiment pouvoir avoir des justificatifs, en fait. Ça, c'est très important. C'est pas juste, on va dire, oui, oh, ça, vous inquiétez pas, je le fais. Non, c'est vraiment ayez un justificatif. Toujours avoir un justificatif, une preuve. C'est obligatoire. Ensuite, suite à ces questionnaires, eh ben, dernier point de ce critère 7, très important et qui va relier aussi un autre critère dans le référentiel, c'est de mettre à jour vos taux de satisfaction sur votre site internet. Ça, c'est obligatoire. En fonction de vos process de mise à jour, hein, bien entendu, je ne sais pas si vous avez mis tous les ans, tous les 6 mois, tous les 9 mois, tous les 3 mois, après chaque formation, en fonction aussi de la taille de votre organisme. Donc de respecter cela, les temps de mise à jour, et de mettre votre taux de satisfaction en ayant bien un tableau, comment vous avez calculé, qui puisse vérifier aussi vos calculs, hein, parce que le but, ce n'est pas non plus de mettre un faux taux de satisfaction, c'est vraiment que ce soit réel, en transparence. Et du coup, sur vos taux de satisfaction, sur votre site internet, c'est de bien indiquer le panel. Donc le panel, ce sera de noter sur combien de participants à ce questionnaire vous avez fait ce taux, sur quelle formation, est-ce qu'il y en a une, deux, trois, sur lesquelles de formations, si vous en avez plusieurs, ou bilan de compétences, etc., ça peut être sur plein de sujets. Donc vraiment d'indiquer le panel de formation et les dates. Ça veut dire le panel de quelle date, de quelle date à quelle date. C'est relatif ce panel. Et d'indiquer sur votre site la date de mise à jour de ce taux de satisfaction. Voilà pour le critère 7. Alors, j'ai quelques conseils à vous donner suite à cela. Si vous n'arrivez pas à obtenir le retour de questionnaire à chaud et à froid, ça, c'est vrai, ce n'est pas toujours évident, surtout sur, par exemple, les entreprises, des financeurs. Voilà, c'est des fois un peu compliqué, même sur certains stagiaires ou bénéficiaires. Donc, moi, je vous invite à vraiment effectuer une relance en gardant la preuve d'envoi comme justificatif. Donc, c'est vraiment, par exemple, vous envoyez un mail et vous imprimez en PDF votre mail que vous allez mettre dans le dossier de votre bénéficiaire afin de justifier auprès de votre auditeur que vous avez effectué une relance, que malheureusement, ils ne vous ont pas répondu. Voilà, par exemple, même si vous envoyez en ligne sur, je ne sais pas, le site, par exemple, Pôle emploi ou un OPCO en spécifique, et ben de bien faire une capture d'écran que vous avez bien envoyé le questionnaire pour preuve. Voilà, c'est important, ça vous permet, ils comprennent aussi hein, les auditeurs que vous ne pouvez malheureusement pas avoir le retour de tout le monde, mais c'est important, ils doivent aussi pouvoir avoir des justificatifs et des preuves que vous l'avez bien envoyé. Donc voilà, si vraiment j'ai un conseil à vous donner, le but étant pas non plus de vous rajouter du travail, mais essayer d'avoir cette technique-là, de faire une impression, de le garder dans votre dossier mail, de pouvoir le ressortir assez rapidement et facilement. Voilà. Et ensuite, un deuxième conseil par rapport à ça, c'est de bien démontrer que vous continuez tout au long de l'année l'amélioration continue de vos process, de votre organisme de formation. Donc, toujours avoir votre tableau mis à jour de process, d'amélioration continue. Et surtout, toujours versionner vos versions de documents avec la date de mise à jour et V1, V2, V3. Et si possible, de garder l'ancienne version pour pouvoir aussi, s'il le souhaite l'auditeur, pouvoir voir vos améliorations et où et comment et pourquoi. Voilà, donc ça, c'est toujours bien d'éviter d'écraser vos anciens documents. Alors, les anciennes versions, par exemple, si vous avez fait un V6 et que vous avez le V5, vous gardez le V5, les précédentes, vous pouvez les enlever, il n'y a pas de souci, ou les mettre dans un mail archive ou autre. Vous n'êtes pas obligé de tout garder, mais gardez au moins la précédente. Ça, c'est toujours bien pour voir aussi les changements. Et ensuite, pour un troisième conseil, par rapport aux analyses des retours, des questionnaires, moi ce que je vous conseille, parce qu'on sait tous hein, la charge d'un organisme de formation et d'une entreprise, voilà, on n'a jamais le temps de s'ennuyer, il y a beaucoup de choses à faire et à voir. C'est peut-être vous créer aussi une routine de dire voilà, tous les X mois ou à chaque trimestre, je fais une étude de mes retours de sondage. Et au moins, même là, je vérifie si j'ai eu les retours, sinon je relance, de se poser, de pourquoi pas vous créer une routine. En bloquant dans votre agenda, en disant, voilà, à ce moment-là, je fais ça, je mets à jour mes taux de satisfaction, je mets à jour mon tableau de suivi d'amélioration continue. Voilà, c'est vraiment de prouver aussi que vous avez des routines pour aussi éviter d'oublier, parce que c'est humain, on a tous aussi une grosse charge de travail, une charge mentale. Essayez de vous trouver des méthodologies pratiques. Alors là, c'est un conseil que je vous donne, hein, qui m'appartient et me ressemble, il peut ne pas vous convenir. Voilà, ça peut être un petit tips pour vous aider, ça peut être d'améliorer différemment, voilà. Mais c'est bien aussi des fois d'avoir une petite routine. Et ensuite, en dernier conseil par rapport aux critères 7 et par rapport aux réclamations, c'est de bien vérifier que vos clients, vos bénéficiaires, les parties prenantes, que ce soit stagiaires, bénéficiaires, entreprises, financeurs, intervenants, aient bien les informations, comment effectuer une réclamation, d'avoir le process clair et simple, par exemple sur votre site internet, sur des documents officiels qu'ils puissent avoir facilement, et de bien vérifier que vous, Vous traitez correctement les réclamations comme vous avez effectué sur votre process et présenté à votre audit. Ça, c'est vraiment très important et à vérifier que ce soit bien mis en œuvre parce qu'il se peut que vous n'en ayez pas eu et ça, c'est normal et c'est vraiment chouette si vous n'en avez pas eu. Mais c'est de vérifier que ça, c'est bien au point et que c'est bien OK. Voilà pour le deuxième point qui fut aussi intense. Hein, je suis désolée, j'ai l'impression de vous en mettre plein dans la tête, mais voilà, c'est vraiment des choses qui sont très importantes pour votre audit de surveillance et audit de renouvellement. On va partir sur deux indicateurs du critère 2. Alors, pour rappel, le critère 2, c'est l'identification précise des objectifs des prestations proposées et l'adaptation de ces prestations au public bénéficiaire lors de la conception des prestations. Plus précisément, pour faire un peu plus simple et digeste, on va partir plus précisément sur l'indicateur 4 et 8, qui sont vraiment le recueil des besoins, des attentes du bénéficiaire et son positionnement à l'entrée en formation ou l'inscription en formation en fonction de vos prérequis. Par rapport à ça, à ces deux indicateurs-là, il est obligatoire de pouvoir justifier que vous prenez en compte les attentes et besoins des participants, donc des bénéficiaires, durant la formation. Donc ça va être avant la formation et pendant la formation, de vraiment prendre en compte que on prend en compte ses attentes, ses besoins, son niveau, voilà ce que le participant souhaite aussi à l'entrée en formation et pendant sa formation. Donc là, toujours, hein, petit rappel, hein, petite piqûre de rappel à nouveau, c'est d'avoir toujours des justificatifs. De ne pas avoir, oui, je le fais, mais de ne rien avoir. Donc c'est d'avoir par exemple un compte rendu, un paperboard, par exemple une photographie de votre paperboard, par exemple avec des post-it, un mail, des fiches de participants, un questionnaire, voilà, tout support qui peut vous prouver de preuves que vous prenez en compte. Et surtout, et ça c'est pas des moindres, de savoir expliquer et de démontrer que vous le prenez en compte et comment vous le prenez en compte. Donc pourquoi pas, si vous avez changé un peu votre contenu de formation le jour J ou votre animation, voilà, de vraiment aussi le prendre en compte et le mettre en avant. Ça c'est vraiment important, de mettre aussi en avant un peu votre philosophie d'animation, de formation, quelles sont vos forces, ou même pour les bilans de compétences, quelle est votre force de comment vous prenez en compte les besoins de votre bénéficiaire en face. Voilà, c'est vraiment important à réfléchir, voilà, et de mettre en place, parce que c'est le moment aussi de parler de vos forces et de ce qui vous différencie et de transmission. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier point très important. Également, deuxième point, il est fortement conseillé de pouvoir voir l'évolution de vos participants avant et après la formation. Donc là, c'est vraiment d'avoir des évaluations pour des petits quiz ou des mises en pratique, peu importe en fonction de vos évolutions et de vos évaluations, de voir vraiment l'évolution et les niveaux de vos participants au début et en fin. Ça vous permet surtout aussi de pouvoir adapter la formation si nécessaire. Alors, par exemple, pour mieux comprendre, par exemple, vous allez faire un questionnaire identique en début et en fin, et vous allez avoir un participant qui va y répondre. Et en fait, il a un excellent niveau déjà en début de formation. Il n'a même pas commencé la formation. Il a un très bon niveau. Il sait répondre à toutes les questions. Et c'est bon partout. Et du coup, en fin de formation, eh ben, en fait, il a le même acquis. Donc là, c'est de se poser la question, voilà, est-ce que la formation était adéquate à ses besoins? Est-ce qu'elle était adéquate à son niveau? Est-ce que je n'aurais pas dû créer plutôt un niveau 2 pour lui et de le faire intégrer le deuxième niveau et pas forcément cette formation? Parce que là, du coup, il n'a pas forcément eu d'apprentissage complémentaire. Voilà pour le premier exemple. Et par exemple, vous pouvez aussi avoir l'inverse, quelqu'un qui a du mal à répondre aux questions et vraiment qui n'a pas du tout de connaissances. Et en fin de formation, c'était tellement intense sa formation que du coup, il a eu du mal à suivre. Et en fin de formation, il n'a pas forcément bien répondu non plus au questionnaire. Et du coup, c'est se poser la question. Quels sont ses apprentissages? Est-ce que la formation était adaptée? Est-ce que le niveau n'était pas trop élevé? Est-ce qu'il n'aurait pas dû faire d'abord peut-être une initiation ou peut-être avec vous directement un petit point? Voilà. Est-ce que je ne dois pas amener ma formation différente avec des niveaux différents? Est-ce que mon positionnement est bien adapté pour mes participants qui participent à la formation? Voilà. C'est vraiment important de voir aussi l'évolution, Et par exemple aussi pour les bilans de compétences, eh ben c'est de voir aussi la synthèse, l'atteinte des objectifs. Voilà, c'est vraiment des choses comme ça qui sont à mettre en œuvre. Donc voilà, n'hésitez pas toujours à avoir aussi des preuves. Voilà, je suis un peu embêtante avec mes preuves, mais c'est très important. Voilà pour le point sur le recueil des besoins du bénéficiaire et son positionnement, donc sur le critère 2. J'espère que je ne vous perds pas. Je sais que c'est intense. J'espère que ça vous donne des axes vraiment et que ça va vous accompagner pour votre renouvellement et votre audit. Nous allons passer du coup sur la partie interne de votre organisme de formation, donc sur une partie du critère numéro 5. Pour rappel, le critère numéro 5, c'est la qualification et le développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre les prestations de formation. Là, on va être plus précisément sur les indicateurs 21 et 22. Donc, c'est tout ce qui est évaluation des compétences des intervenants et développement des compétences des intervenants. Alors, vous allez devoir, du coup, premièrement, démontrer que vous évaluez une à plusieurs fois par an vos intervenants, ou même si vous êtes tout seul, hein, dans l'organisme, de pouvoir vous auto-évaluer régulièrement. Alors, encore une fois, avoir des preuves, bien entendu, et que ce soit, bien entendu, adapté en fonction de vos process que vous avez élaborés pour votre audit initial. Si vous avez des évolutions sur ce sujet-là, que vous dites, voilà, maintenant, je fais des auto-évaluations à chaque fin de formation, tous les mois, et que ça a changé par rapport à votre process, surtout bien mettre à jour votre process, garder une nouvelle version avec la date de mise à jour. Et de mettre à jour votre tableau d'amélioration continue en disant, voilà, j'ai mis à jour tel process comme preuve. Ensuite, deuxième point, ça va être de démontrer le développement des compétences. Alors, si vous avez des salariés, ce sera l'entretien annuel et le plan de développement. Donc, toujours avoir un compte rendu et peut-être un rendez-vous dans votre agenda précisant que vous avez bien eu cet entretien-là, ce jour-là. Pour les sous-traitants et les indépendants, c'est d'avoir, ben, par exemple, des formations que vous avez effectuées les derniers mois ou le laps de temps entre l'audit de surveillance, de contrôle, de renouvellement, etc. D'avoir participé à des webinaires, d'avoir participé à des colloques, à des séminaires, pourquoi pas faire partie d'un réseau, de groupes de pairs, d'échanges entre formateurs ou même de formations internes. Voilà, c'est vraiment pour prouver vos montées en compétences et continuer le développement de vos compétences au sein de l'organisme de formation. Donc ça, c'est très important de le mettre en œuvre et d'avoir du coup les justificatifs de préférence. Voilà, c'est toujours obligatoire d'avoir des justificatifs. Voilà pour cette partie. Là, nous allons partir sur un dernier point. C'est un sujet, ben voilà, avec un risque de non-conformité. Et c'est un sujet hyper important parce que ce n'est pas toujours évident de le mettre en œuvre. Donc ça va être le critère 6 et qui est pour rappel l'inscription et l'investissement du prestataire dans son environnement professionnel. Donc là, on parle de veille. Je sais, là, d'un coup, vos poils vont s'hérisser ou ce n'est pas évident de justifier. Alors, premièrement, donc, je vais vous rappeler les veilles qui sont nécessaires. Donc on va voir la première qui est la veille légale et réglementaire. Donc, le côté juridique, hein, qui va être pour l'indicateur 23 sur le référentiel Calliope. Ensuite, vous allez avoir l'indicateur 24 du référentiel qui va être sur la veille métier, compétences et emploi. Alors, bien entendu, dans les secteurs de votre organisme de formation, prestation, voilà, ça c'est vraiment toujours en lien. On va avoir sur l'indicateur 25 tout ce qui est innovation pédagogique et technologique. Et de l'indicateur 23 à 26, tout ce qui est champ du handicap. Alors, pour la veille, c'est très important. Bah déjà, vous avez dû être inscrit sur des newsletters. Donc, ça, c'est important de continuer à suivre vos newsletters et pourquoi pas d'être inscrit sur des nouvelles. Le podcast que je fais et que je vais lancer régulièrement, vous pourrez vous en servir. Donc, je vous invite vraiment à le mettre comme champ de veille et pourquoi pas vous abonner, l'enregistrer ou le mettre sur votre tableau de suivi de veille que vous avez écouté ce podcast, parce que c'est vraiment de la veille. Et c'est de l'amélioration continue, donc servez-vous de tout ce que vous pouvez vous servir. C'est-à-dire que même si vous voyez des articles sur LinkedIn, n'hésitez pas à enregistrer en capture d'écran ou en version PDF tous les documents que vous recevez. Et de trier. Il y a de la veille qui va être pas forcément nécessaire pour votre organisme. Laissez-le de côté, c'est de la veille, mais c'est pas forcément quelque chose du coup que vous avez eu besoin de vous servir. Par contre, si vous voyez des sujets qui sont importants pour votre organisme de formation sur les quatre types de veille que je vous ai indiqués, n'hésitez pas à bien mettre votre tableau de suivi à jour en disant qu'est-ce que ça va impacter dans votre organisme de formation, qu'est-ce que vous allez mettre en œuvre, est-ce que vous devez faire derrière une gestion de projet, est-ce que c'est quelque chose à garder pour mémo. Voilà, c'est vraiment de mettre tout ça de votre côté, de participer à des webinaires, des événements. Voilà, tout ça, c'est vraiment des choses qui peuvent vous aider à faire de la veille et à bien garder vos captures d'écran, vos invitations. Pareil, si vous regardez des replays, des vidéos, des lectures, de le mettre à jour sur votre tableau de suivi comme preuve et surtout de toujours se dire, voilà, ce que je lis, qu'est-ce que ça va impacter dans mon OF et de vraiment d'avoir ce sens-là qui est important, de dire, bah voilà, qu'est-ce que je pourrais faire de plus et de réfléchir à tout ce que vous mettez en œuvre. Et vraiment de pouvoir aller beaucoup plus loin, pas juste être inscrit à des newsletters. Il faut vraiment de pouvoir aussi dire, ben, forcément, il n'y a pas toute la veille qui est importante pour notre organisme de formation, mais il y a toujours quand même quelques petits trucs qui sont importants. Sachant que moi, sur mon podcast, c'est vraiment à cœur de aussi partager des éléments de veille. Donc, n'hésitez pas à vraiment vous en servir pour vous aider en cas de besoin. Voilà donc pour les non-conformités qui sont régulièrement relevées dans les audits de surveillance. Donc, je vous conseille de vous en inspirer, de vérifier vos process. Pourquoi pas de le réécouter pour remettre vos plans d'action. Parce que je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup d'éléments dans ce podcast. Il est assez riche et dense. J'essaie de le faire qu'il ne soit pas chronophage. Donc, j'espère que ne pas vous avoir perdu pendant. C'est vraiment important pour moi de vous transmettre. Et là, justement, j'aimerais bien aussi vous partager quelques petits éléments pour bien vous préparer justement et vous accompagner au mieux. Donc, j'ai quelques petits conseils et astuces. Donc, en premier, bah, c'est déjà ce que je vous conseille, c'est d'effectuer un petit audit blanc interne afin que vous vérifiez vos dossiers, des bénéficiaires, vos process, voir si c'est OK, est-ce que vous êtes à l'aise, est-ce qu'il y a des évolutions. Voilà, de vraiment voir un peu tout ça et voir aussi surtout si vos dossiers de vos bénéficiaires sont complets, hein, s'il ne manque pas des pièces, hein, pour avoir vraiment tout à portée de main rapidement pour l'audit de surveillance ou de renouvellement. Donc ça, c'est important. En deuxième conseil, ben, c'est pourquoi pas, si vous en ressentez le besoin, c'est de vous faire accompagner d'un consultant. Donc de votre consultant, par exemple, qui vous accompagnait pour votre audit initial, ou de moi-même, ou de quelqu'un d'autre, si vous le souhaitez. Donc, ou pourquoi pas de vous accompagner avec ce podcast, hein, parce que ça peut vous aider aussi à vous donner des astuces durant votre préparation. Ensuite, un autre conseil, bah, c'est de mettre en place un rétro-planning avant l'audit de surveillance ou de renouvellement, ou même de votre audit initial, hein, s'il n'est pas passé, afin de pouvoir surtout vous organiser au mieux, adapter votre planning et surtout voir le laps de temps pour quantifier. Ça, c'est important, de pas d'un coup vous retrouver avec une charge où c'est pas forcément confort pour vous et vous allez voir la deadline arriver. Voilà, c'est toujours bien aussi d'être confort quand même et de ne pas se rajouter une pression, sachant qu'on le sait très bien que le jour de l'audit, on est toujours tous stressés. Moi, la première, hein, même si je connais parfaitement les sujets Calliope et j'ai eu l'occasion de vivre de nombreux audits, hein, avec mes clients et en interne de société. Mais voilà, ça reste toujours un peu intense. Donc voilà, c'est bien que vous soyez préparés au mieux. Ensuite, autre conseil, eh ben, ce serait de faire vivre vos process et de les faire évoluer au besoin. Avec toujours, je le répète à nouveau, une petite piqûre de rappel, toujours versionner avec la date de mise à jour et si possible de garder votre précédente version pour voir l'évolution. Voilà, c'est hyper positif de les faire évoluer. S'il y a des choses que vous aviez prévues lors de votre audit initial et qu'en fin de compte vous ne faites pas parce que ce n'est pas adapté à votre taille d'organisme, ce n'est pas grave, c'est justement positif, vous vous en êtes rendu compte, vous allez améliorer votre système et vous allez peut-être créer un autre process, donc de bien savoir l'expliquer à votre auditeur le jour de l'audit. Autre conseil, bah surtout ne pas s'ajouter du travail inutilement, de créer des process qui vous ressemblent avec votre identité, vos valeurs et avec lequel vous êtes à l'aise. C'est important parce que vous allez avoir envie de les faire et ne pas le laisser dans un coin, dans un dossier que vous n'allez jamais le faire. C'est important que l'auditeur sente que c'est quelque chose que vous aimez, que vous avez envie de le faire et qui est en cohésion avec vous. Ça ne sert à rien de faire des process qui sont bons pour une entreprise qui a par exemple 200 salariés. Faites quelque chose de simple, qui vous ressemble, mais qui sera fait. C'est très important. Voilà, de vraiment créer vos process, c'est votre organisme de formation. Ça, c'est vraiment très, très, très important. C'est la première des choses que j'amène dans mes accompagnements. C'est vraiment sur mesure et qui est personnalisé à votre identité, à vos valeurs, à ce que vous voulez amener dans votre organisme de formation. C'est une force. Vraiment, servez-vous de ça. Autre conseil, eh ben, c'est toujours de voir le sens et le positif de ce que vous allez faire dans vos process et dans tous les documents que vous faites ou dans tout ce que vous devez être amené à faire avec l'audit qualité Calliope. C'est vraiment important de trouver l'utilité derrière parce que du coup, ça va vous faire vibrer. Vous allez avoir envie de le faire. Ça va vraiment vous aider au quotidien et vraiment de trouver le sens. Ça vous permet aussi de créer un organisme de formation avec un label qualité, mais que vous allez faire vivre. Ce n'est pas juste faire un label qualité pour dire d'avoir un label qualité et d'avoir des financements. C'est d'avoir un label qualité. Vous avez une formation, vous avez des formations qualitatives, vous avez un organisme de formation qui est qualitatif. Et vous êtes vraiment à cœur de ça, d'accompagner au mieux et de prendre en compte toutes les parties prenantes. Autant vous, en tant qu'organisme de formation, vos intervenants, vos salariés, vos sous-traitants, vos formateurs, les parties bénéficiaires, les participants qui vont participer à vos formations ou prestations, les entreprises, les OPCO, et vraiment de garantir une satisfaction globale. Et ça, c'est vraiment important si je vous invite à trouver le sens de ce que vous faites, de ce que vous avez envie de faire, de ce que vous avez envie de partager, et de toujours trouver le positif. Qu'est-ce que ça vous apporte? De ne pas rester sur ce négatif, de dire « Ah là là, on m'impose des choses ». En fait, on ne vous impose rien. Il y a le référentiel qui vous indique ce qu'ils ont envie de voir. Mais après, vous avez aussi la créativité de pouvoir l'amener comment vous, vous le souhaitez. Donc, si vraiment j'ai un conseil à vous donner, c'est ça le principal. Et le dernier, bah, de vous faire confiance et de croire en vos process. De ne pas ne vous laisser influencer. Ça veut dire que si vous êtes OK avec vos process et que vous trouvez qu'ils sont OK et garants et qui sont conformes, faites-vous confiance. Voilà. En tout cas, je suis ravie de vous avoir partagé tous ces éléments-là, de l'avoir préparé pour vous. C'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et vraiment, j'espère qu'il vous sera d'une grande utilité. J'espère ne pas vous en avoir mis trop dans la tête parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses. N'hésitez pas à le réécouter tranquillement, de faire vos méthodologies, de trouver votre propre méthode. Je vous ai donné des conseils, mais voilà, ce sont mes conseils. N'hésitez pas à les adapter en fonction de vous. Voilà, en tout cas, c'est vraiment quelque chose que je voulais vous partager. Si besoin, n'hésitez pas à me contacter. J'adore les partages, les feedbacks, le retour d'expérience. Ou même si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me contacter. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre ou même de faire ensemble une visio. Un rendez-vous téléphonique, voilà, vraiment, sentez-vous libre de pouvoir le faire. Voilà, je suis disponible et avec grand plaisir de pouvoir partager. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast